OK, on va commencer aujourd'hui. Si vous voulez vous lever, on va lire le chapitre 21 de la Bible. Juste pour vous remémorer, on va demander aux gens de se lever uniquement à la lecture du passage qu'on étudie. Si on parle de la parole, c'est pas qu'on ne devrait pas se lever, là, mais c'est pour qu'il y ait de l'ordre, tout simplement. On va s'habituer à faire ça comme ça. Ça fait comme ça, ça va devenir une habitude. Chapitre 21 du livre de la Genèse. On va lire les 34 versets. C'est un long passage. D'habitude, on ne prend pas des passages aussi longs, mais vu que c'est une histoire qui se tient, on va la faire en deux semaines, puis on devrait passer le plus gros du passage. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé, dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant qu'il a et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait, « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Que fais-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant, ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimélec. Abimélec répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimélec. Ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Abimélec dit à Abraham, « Qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mises à part? » Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits, C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un à l'autre. Après quoi, Abimélec se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamarisques à Beersheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Je vais vous asseoir. OK, on est rendu à ce chapitre-là, très intéressant. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Yahweh accomplit ses promesses ». Alors, la question de Yahweh ou Jéhovah, ça c'est une longue histoire qu'on pourrait... Alors, c'est basé sur le tétragramme. Les deux noms, on a ajouté des voyelles, alors que le tétragramme, c'est quatre consonnes. Si tu prends quatre consonnes, tu mets un C, un D, un G, puis un R, tu essaies de prononcer ça, ça se prononce pas. Alors, dans toute l'histoire, c'est une longue histoire. Quelqu'un qui voudrait savoir la différence, pourquoi Yahweh, pourquoi Jéhovah, c'est une longue histoire. Mais j'ai choisi Yahweh parce qu'il semble que dans la modernité, on choisit plutôt Yahweh. Pour pas qu'il y ait de confusion avec... OK, j'ai intitulé le message aujourd'hui, Yahweh accomplit ses promesses. Alors, de là le thème des promesses qu'on a parlé tantôt. Alors, Yahweh accomplit ses promesses. Premièrement, du verset 1 à 8, en donnant naissance à Isaac. Deuxièmement, en donnant protection à Ismaël. Il y a toutes des promesses qui sont en arrière de ça. On voit comment Dieu réalise ses promesses dans ça. Et la troisième promesse, c'est en donnant un grand nom à Abraham. Vous vous souvenez, quand on a étudié les passages précédents, que Dieu avait dit à Abraham qu'il lui donnerait un grand nom. Son nom est tellement grand qu'on est rendu en 2018 et on en parle encore. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde dont le nom traverse autant de siècles que ça. Alors, c'est ça qu'on va regarder, les trois idées. Je ne sais pas comment, où on va se rendre. Je vais essayer d'en faire à peu près la moitié aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des personnes qui font des promesses d'ivrogne, qu'on appelle. Les promesses des hommes, en général, même nos propres promesses que des fois on peut avoir fait envers nos proches, nos enfants. Vous savez comme moi que ça ne s'accomplit pas toujours, hein? Alors, les promesses des hommes sont souvent caractérisées par les choses suivantes. Irréalisme. Souvent, c'est des promesses, c'est irréel. Deuxièmement, fragile. On dit quelque chose, il arrive un petit quelque chose qu'on ne peut pas, ça ne se réalise pas. Inconstance. On dit des choses, on va y aller jeudi ou on va y aller samedi, puis arrive quelque chose, on n'y va pas. Irréflexion. Des promesses irréfléchies. Des promesses qui ne se sont jamais accomplies. On connaît tout ça, même si on n'est pas nécessairement des ivrognes, on a fait, en quelque sorte, dans nos vies, des promesses qui n'étaient pas trop fortes, comme on dit, ça ne tient pas de bout, comme on dit, ça ne tient pas la route. Il y a une différence avec celle de Dieu. Celle de Dieu, quand Dieu promet quelque chose, c'est solide comme du roc. Et ça ne manque jamais, ça s'accomplit toujours. Alors, de là, l'importance de connaître les promesses de Dieu, parce que quand on les connaît, on peut les réclamer. Dieu aime qu'on réclame ses promesses. Mais si on ne les connaît pas, on est dans un moment, disons, qu'on cherche la direction. Ce matin, je regardais un petit peu le bout du montant que je vous ai parlé tantôt. On cherche la direction dans nos vies. Il y a quelque chose, on a différents choix. On ne sait pas trop quel chemin prendre. Je regardais un matin, j'ai juste regardé promesses de Dieu sur la direction. Il y avait quelque chose comme 12-15 versets. Mais quand tu dis ça, tu as besoin de direction, ça fait un bien terrible à l'âme. Parce que tu sais que Dieu, quand il fait une promesse, ça va arriver. Alors, celle de Dieu, au contraire de celle de l'homme, qu'on a nommé les principales caractéristiques tantôt, ils ont des caractéristiques aussi, celles de Dieu. Alors, la première, elles sont immuables. On sait ce que ça veut dire, immuable. Dieu ne change pas. Quand il a dit quelque chose, même si ça fait 2000 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà lu votre Bible, des fois. vous arrivez à plusieurs chapitres. Disons, Dieu a fait une promesse dans Genèse. Vous êtes rendu dans 5-6 livres plus loin. Là, il se produit quelque chose. Vous vous en souvenez plus que Dieu a promis ça. Puis ça, les Écritures en sont bourrées, littéralement, d'exemples de ce style-là. Dieu fait des promesses, quand Dieu parle, tout ce qu'il dit, c'est immuable, ça ne bouge pas, ça ne changera pas, ça va arriver. La deuxième caractéristique, c'est qu'elles sont fidèles. Quand Dieu dit quelque chose, c'est au mot près. Des fois, nous autres, on peut avoir fait une promesse, on l'a réalisée jusqu'à un certain point, là, mais c'est jamais comme on aurait voulu. Mais Dieu, lui, c'est au mot précis. Quand il fait une promesse, ça va arriver. Autre caractéristique, c'est qu'elles sont grandes et précieuses. La parole de Dieu elle-même, lorsqu'elle parle des promesses du Seigneur, utilise le mot précieux. On n'ira pas ce matin, là, mais c'est dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Les précieuses promesses de Dieu. Quelque chose qui est précieux, une supposition que vous avez un item chez vous, que ça, pour vous, là, vous ne montrez pas ça à tout le monde. Vous serrez ça dans un petit écrin. Et vous êtes... C'est précieux, hein? Est-ce qu'on considère les innombrables promesses de Dieu dans les Écritures comme étant précieuses? C'est précieux. Voyez-vous, la femme de Jonathan Goffert, que je vous ai raconté tantôt, Roselyn Goffert, c'est ça qui lui a... elle était terrorisée. Et Dieu a calmé son cœur. Elle dit, comme d'un coup sec, là. Elle dit, j'avais l'impression, puis elle dit, non seulement l'impression, mais la certitude que Dieu me parlait par le livre, les précieuses promesses. On est loin de considérer les promesses de Dieu dans les Écritures, premièrement les connaître, deuxièmement les réclamer. Alors, sont grandes et précieuses, et autres caractéristiques, elles sont vraies. Et elles sont sûres. Quand quelqu'un fait une promesse, il y en a qui m'en ont déjà fait. Moi, je l'ai déjà fait à d'autres. Le côté sûr là-dedans, c'est délicat un peu, c'est fragile. Donc, le 21e chapitre du livre de la Genèse est une illustration puissante et magistrale de l'absolue vérité de l'affirmation que Dieu accomplit ses promesses. Des fois, on lit le chapitre 21, mais le thème du chapitre 21, on dirait qu'on l'oublie. Le thème, c'est vraiment, le chapitre 21, Yahweh accomplit ses promesses. C'est pas pour rien que j'ai choisi ce titre-là, parce que je pense que c'est le thème du chapitre. Alors, chaque fois qu'on trouve, il y a comme trois divisions à l'intérieur du chapitre, chaque fois qu'on voit une division, il faut se rappeler que c'est l'accomplissement d'une promesse que Dieu fait et qu'il la réalise à la perfection. Donc, on va regarder la première section dont on a parlé. Yahweh accomplit sa promesse en Isaac. On se souvient que Abraham a manqué de foi, Sarah a manqué de foi, a dit « couche avec ma servante », et on aurait dit qu'il cherchait à accomplir la promesse de Dieu avec des moyens humains. Ça a-tu marché? Ça n'a pas marché. Comme en québécois, on dit « ça l'a foiré ». Et ça l'a foiré. Mais quand Dieu fait une promesse, s'il avait eu la foi, il n'y aurait pas eu l'épisode de Sarah qui demande à son mari « couche avec ma servante, on va le considérer ». Alors, ça nous montre quelque chose. Quand Dieu fait des promesses, il les réalise toujours. Et quand nous, on cherche à s'en mêler, souvent on fait plus des bêtises que d'autres choses. Alors, dans le verset 1 et 2, on voit que Yahweh l'accomplit puissamment sa promesse de donner à Abraham un fils par lequel viendrait, par toute une série de fils d'un, fils de l'autre, viendrait le Messie, Jésus, le Christ lui-même. Quand vous lisez dans Matthieu 1, le nom d'Isaac est là, parce qu'il faisait partie de la lignée messianique. C'est la promesse que Dieu a faite, ça a pris du temps, mais Dieu avait prévu une lignée, et Isaac était dans la lignée. Et ce n'est pas par des moyens humains qu'il venait. La preuve, c'est qu'il n'y a rien d'humain là-dedans, c'est miraculeux. Un homme de 100 ans, une femme de 90 ans, était stérile, normalement, là, si Dieu n'aurait pas parlé, qui aurait cru ça? T'es stérile. Tu dis, je sais, je n'ai pas eu d'enfant. On a essayé toute ma vie, je n'ai pas eu un. Mais si Dieu dit, l'enfant, il va venir de ta femme Sarah. Comment tu ne le croiras pas? Bien, c'est ça qui est arrivé à Laurie aussi. Le nom d'Isaac, même, est même significatif, parce qu'à Laurie, ben, là, tu es en train de voir qu'elle doit rire, mais elle doit rire encore, mais elle doit rire jaune un peu. Alors, ça dit dans le verset 1 et 2, « Et l'Éternel visita Sarah. » Comme il l'avait dit, la promesse, il l'avait dit. « Et l'Éternel fit à Sarah comme il lui avait parlé. » Voyez-vous des références à ce qu'il a dit avant. « Et Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, à l'époque que Dieu lui avait dit. » Vous vous remarquez que dans les deux versets, il y a trois fois ce que j'ai dit, ce que j'ai dit, ce que j'ai dit. « Et il lui dit, à l'époque que Dieu lui avait dit. » Vous vous souvenez-vous, dans les passages précédents, Dieu dit, « Dans un an, je vais revenir, tu vas être enceinte. » Elle avait envie de rire, hein? Mais là, Dieu est en train d'y montrer que ses promesses, il est capable. Pourquoi on voit de la puissance dans ce passage-là? Parce que la puissance est démontrée par l'identité de celui qui fait la promesse. L'Éternel, ça dit, qui a visité Sarah. Donc, quand il dit qu'il la visite, ça signifie qu'il vient accomplir, il vient exécuter de façon amoureuse et miséricordieuse sa promesse envers Sarah. La puissance est aussi démontrée par la force miraculeuse de l'événement. Il faut se souvenir, Sarah devint enceinte à 90 ans. On a des personnes de 90 ans dans l'Assemblée. Si je disais à cette personne-là aujourd'hui, tu vas être enceinte, elle me dirait, je pense qu'on va avoir des problèmes. La force miraculeuse de Dieu. C'est puissant parce que Dieu permet à une femme de 90 ans de devenir enceinte. Et aussi, une autre chose qui est miraculeuse, un mari de 100 ans. Bon, dans l'Assemblée, il n'y en a pas encore. Je ne sais pas s'il y en a un qui va se rendre là. Hein, parce que... Aussi, la puissance est démontrée par l'immuabilité du prometteur, celui qui fait la promesse. Immuable, il ne change pas. Voyez-vous, les versets 1 et 2 donne une triple affirmation par les mots suivants. Comme il avait dit, comme il en avait parlé, que Dieu lui avait dit. Et après ça, la puissance est aussi décrétée par la souveraineté du prometteur. Souveraineté, quand tu dis à quelqu'un, je vais aller te voir la semaine prochaine, si tu arrives trois jours après ou trois jours avant, tu n'es pas dans ton temps. Dieu lui avait dit, dans sa souveraineté, tu vas avoir un enfant lorsque je vais revenir l'an prochain. Et ça arrive exactement parce que Dieu, dans sa souveraineté, avait décidé que ce serait là que ça arriverait, que Isaac naîtrait. Et versets 3 à 5, Yahweh l'accomplit, là on a vu qu'il l'accomplit avec puissance. Yahweh l'accomplit aussi avec fidélité, versets 3 à 5. Et Abraham appela son fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté, Isaac. Qui avait demandé? Dieu avait demandé de l'appeler Isaac. Et Abraham circoncit Isaac, son fils, à l'âge de 8 jours. Qui avait demandé que les enfants d'Israël soient circoncis à l'âge de 8 jours? Dieu avait demandé ça. Et comme Dieu le lui avait commandé, pas suggéré. Et or, Abraham était âgé de 100 ans. Quand Isaac, son fils, lui naquit. La fidélité est démontrée par le nom d'Isaac. Rappelons que le nom d'Isaac signifie « rire », selon Genèse 17, 19. Alors, rire, il y a comme trois sortes de rires rattachés au nom, mais on peut mettre le rire avec trois personnages et la manière dont ils ont ri face à l'annonce. Quand Dieu leur a fait l'annonce, là, le rire d'Abraham, c'était un rire, lui, de foi, d'émerveillement, d'exaltation de Dieu, de gratitude et d'honneur. Dieu se sert de moi pour emmener la lignée messianique. Le rire de Sarah, lui, incrédulité, doute, déshonneur. Parce que même si Dieu l'avait dit, elle, dans son cas, elle, ça a été, voyons donc, voir si ça se peut, ça. Et la troisième, c'est le rire d'Ismaël, parce qu'on va le voir un petit peu plus loin, que quand ils ont eu le festin, Ismaël, il a ri d'Isaac et il a ri de Sarah. Et là, Sarah, elle n'a pas aimé ça. Elle dit à son mari, écoute, là, ben là, lui, là, je ne veux plus le voir. Ce n'est pas lui qui va être l'héritier de la promesse. Et là, il s'est choqué un petit peu, Abraham, parce que ça le dit dans le texte, que ça lui a beaucoup déplu, parce que c'était son fils. Mais Dieu avait dit que ce n'était pas le fils, c'est le fils de la promesse. Alors, il y a trois sortes de rires dans le texte. Il y a le rire d'Abraham, le rire de Sarah, le rire d'Ismaël. Le rire d'Ismaël, c'était un rire de mépris et un rire de jalousie. On connaît tout ça, hein, des fois. Des fois, il y a des rires qui sont des rires de joie réelle. Des fois, c'est des rires d'incrédulité ou des rires de mépris. Alors, dans le texte, on a les trois. Mais quand Dieu avait dit son nom serait rire, on voit que le mot rire est attaché à tous les personnages qui sont proches de sa naissance. Alors, la fidélité est aussi démontrée par la circoncision d'Isaac au verset 2. On voit qu'Abraham, quand Dieu lui avait commandé quelque chose, n'est pas le style à dire « il fait ce que Dieu lui commande ». Est-ce que nous, on fait toujours ce que Dieu nous commande? Des fois, on est slow ça, sur l'obéissance. Troisième idée du première partie du « Yahweh l'accomplit magistralement ». Une démonstration, quand on dit une démonstration est magistrale, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Une démonstration magistrale, c'est une démonstration qui est propre à un maître. Disons que quelqu'un connaît son métier, ça fait 50 ans qu'il le fait, connaît son métier sur le bout des doigts, puis il veut vous montrer quelque chose dans lequel il est d'une habileté presque incroyable. On va dire, il nous a donné une illustration magistrale. Il nous montre jusqu'à quel point il est capable de faire les choses. Alors, c'est une démonstration qui est propre à un maître et qui est faite de façon solennelle et que ça traduit l'excellence. Quand on entend parler dans le théâtre ou des... Moi, j'ai déjà entendu parler une fois, ça m'avait bien frappé. Celui qui faisait ça, les gobelets, là, je ne me souviens plus de son nom. Pas Guy Favreau, l'autre, là. En tout cas, de toute façon, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que j'avais retenu qu'il avait fait un stand-up devant une foule à Montréal qu'il a fallu qu'il apprenne du texte 1 heure et demie. Un monologue. Il parlait tout seul devant 300 personnes et il fallait pas qu'il dise n'importe quoi, il fallait qu'il dise le texte. Imaginez-vous l'effort qu'un artiste doit faire pour être capable de faire une chose pareille. Vous prendriez le texte devant vous, là, puis il vous le dit, hein, il vous le dit, puis ça a tout l'air à couler tout seul, comme si ça sortait de sa tête sans avoir... Mais, alors, quand on dit magistral, des fois, on dit, « Oh, ça, c'est une démonstration magistrale d'un acteur, un acteur fort. » Ici, Dieu est magistral. On voit que l'enseignement qui a été reçu par Sarah manifeste l'exaltation de l'âme. Exalter, ça veut dire quoi? Ça veut dire élevé. Quand il t'arrive une affaire de même, tu ris quand Dieu te dit tu vas avoir un enfant à ton âge, puis que l'affaire arrive, qu'est-ce que vous pensez que ça fait à l'âme? L'âme s'élève. Tu reconnais que Dieu est capable de toutes choses. Alors, la structure... poétique, on dit que dans l'après des commentateurs, la structure poétique de la phrase dans l'hébreu, ça ressemblerait à la structure du Magnificat de Marie. Tu sais, Marie, quand elle a « Mon âme exalte le Seigneur », quand elle a eu, ben, ça ressemble à ça. D'or, c'est une joie qui est partagée lorsqu'elle dit « Rira avec moi ». Les gens qui l'entendront parler de ça, « Rira avec moi ». Pas rire, rire dans le sens de « Hey, wow! » Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Verset 7, l'enseignement reçu par Sarah manifeste l'émerveillement. Elle qui avait été incrédule. Et manifeste aussi l'affermissement de son âme. Quand Dieu fait une promesse, puis tu vois la promesse arriver, est-ce que ça affermit ta foi, oui ou non? C'est sûr que ça affermit ta foi. Donc, à quelque part, Dieu va protéger, elle qui était une douteuse, Dieu va protéger son enfant durant la période de fragilité, parce qu'on dit que jusqu'à ce qu'il soit sevré, donc Dieu a mis sa main de protection sur son fils Isaac pour qu'il vive et qu'il soit une partie de la courroie de transmission qui se rendrait jusqu'à l'exécution, l'arrivée du Messie. Alors, bien entendu, la reconnaissance est exprimée par un festin. Quand il était sevré, je ne suis pas nécessairement à l'âge, quand ils ont fait un festin. Alors, le festin avait pour but de remercier Dieu, d'exprimer sa joie, une joie collective. Quand tu fais un festin, tu ne fais pas un festin tout seul. Hein? On fait un festin quand on est une grosse gang, puis qu'on a du plaisir et on a de la joie en commun. Alors, deuxième idée qu'on va regarder, c'est les versets 9 à 21. Les versets 9 à 21, on va dire « Yahweh accomplit sa promesse en Ismaël ». Qu'est-ce qui est arrivé avec Ismaël? C'était le fils qui était le résultat de que la femme d'Abraham lui avait dit « couche avec ma servante », puis bon. Alors, c'est le fils qui lui était né, s'appelait Ismaël. Vous vous souvenez que Dieu a fait des promesses aussi à Agar. Alors, Dieu a fait des promesses à Agar. Alors, dans le chapitre, on voit que Dieu fait sa promesse à Abraham et à Sarah en donnant le fils Isaac. Là, on va voir que Dieu va exécuter une autre de ses promesses, mais à une autre personne, à Agar. Alors, le Seigneur avait manifesté sa miséricorde envers Agar, la mère d'Ismaël. Alors, on voit ici l'accomplissement de la promesse divine envers Agar et son fils. Le Seigneur lui avait dit qu'il multiplierait sa postérité. C'est qui la postérité? Les Arabes. Il y en a, des Arabes. Il avait dit qu'il la multiplierait, on le voit aujourd'hui. Et que son fils serait comme un âne sauvage caractérisé par l'esprit belliqueux. Quand on lit les Écritures, quand le Seigneur il parle de la descendance, il lui dit qu'il sera comme un homme sauvage. Et autrement dit, il est en train de dire qu'il serait d'un tempérament chicanier, belliqueux. Belliqueux, ça veut dire que, bon, il n'aille pas ça s'ostiner, comme on dit. Alors, Genèse 16, versets 10 à 12, on revient dans Genèse 16 pour montrer qu'est-ce que Dieu avait dit et qu'est-ce qui s'accomplit. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai beaucoup ta postérité et elle sera innombrable en multitude. » Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras son nom Ismaël, qui veut dire « Dieu entend ». Donc Dieu avait entendu la misère du cœur et avait exprimé sa miséricorde. « Car l'Éternel a entendu ton humiliation et cet homme sera un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en présence de tous ses frères. » Alors c'est vraiment l'esprit chicanier, belliqueux qui viendrait de la descendance d'Ismaël. Alors on voit la démonstration de la vérité de cette prophétie-là dans le verset 21, 9 à 13. Sarah vit le fils d'Agar, l'Égyptienne, qu'elle avait enfanté Abraham, riant. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Elle est en colère. Et là, Abraham, il dit, « Et cette parole fut très mauvaise aux yeux d'Abraham au sujet de son fils. » C'était quand même son enfant. Il l'aimait. Là, il voit sa femme en colère, il dit, « Chasse cette femme-là! » Quand ta femme est en colère, dans une famille, ça va pas bien. Normalement, tu es obligé de tendre l'oreille un peu, sinon tu auras des problèmes. Et Dieu dit à Abraham qu'il n'y ait rien de mauvais à tes yeux, touchant le jeune garçon, et touchant ton esclave, quoi que te dise Sarah, écoute sa voix. Le Seigneur dit, est choquée, toi t'es choqué, mais écoute ce qu'elle dit. Il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Écoute sa voix, car c'est en Isaac que ta postérité sera appelée. Autrement dit, tu es en train de lui dire, je t'avais dit que Isaac serait un des maillons qui se rendrait jusqu'à l'accomplissement de... Et il est ce maillon. Alors, et quant au fils de l'esclave, j'en ferai aussi une nation parce qu'il est ta postérité. Dieu lui a fait cette promesse. Là, il est en train de réaliser, je t'ai dit que j'en ferai une nation. Je vais en faire une nation. Alors, la chair, on peut voir là-dedans l'image du fils Ismaël, il représente dans les Écritures la chair. La chair, on le sait, c'est la partie irrégénérée. Un homme irrégénéré, on dit souvent, il est dans la chair. Alors, la chair est toujours moqueuse. Avez-vous remarqué ça dans votre vie, quand on jase avec des gens irrégénérés, que souvent ils sont moqueurs? Verset 9, la chair est moqueuse parce qu'elle s'était moquée. Verset 10, la chair est provocante. Pourquoi elle est provocante? Parce qu'elle provoque la colère, le rejet et la vengeance. Alors là, du moins, tu ris de moi, tu ris de mon fils, watch bien ce qui va t'arriver. La chair aussi engendre l'irritation, dans le verset 11, parce que la réaction de Sarah déplaît fort à Abraham, parce qu'il aimait son fils. C'est normal. Il a eu deux femmes différentes, mais il aimait quand même son fils. Quand il a vu sa femme aussi en colère que ça, qui lui dit, « Hey, débarrasse-moi de cette femme-là, parce que là, ça ira pas bien. » Verset 12, « L'Éternel manifeste maintenant sa miséricorde envers Abraham. » Il lui rappelle indirectement, il lui dit pas, mais il lui rappelle indirectement sa faute d'avoir manqué de foi en couchant avec Agar, et il le fait réaliser qu'il doit dorénavant vivre avec les conséquences de ses actes. C'est une petite leçon pour nous à apprendre ici. Quand on fait des bêtises, puis qu'on ne croit pas ce que Dieu dit, puis qu'on essaie d'arranger nos problèmes par nous autres mêmes, Dieu permet qu'il nous arrive des affaires difficiles à vivre. Et il permet qu'on vive avec... Il nous a pardonné nos péchés, parce qu'il nous a tous pardonnés. Mais il continue de nous faire vivre avec les conséquences de nos péchés. Verset 13, Dieu remémore à Abraham qu'il doit accomplir sa promesse de faire d'Ismaël une grande nation, qui sont les nations arabes. Quand on regarde Israël, tous ceux qui sont autour, c'est des nations arabes, et c'est vrai qu'ils sont nombreux, et à cause du pétrole, sont devenus immensément riches. Ils croulent sous l'argent, littéralement. Alors Dieu manifeste sa miséricorde envers l'enfant Ismaël, qui est l'enfant de la chair, mais il manifeste quand même sa miséricorde envers lui. On peut voir là-dedans Ismaël comme étant un type de ce qu'on pourrait dire des gentils. C'est qui les gentils dans les Écritures? C'est les nations non converties, les gentils. On va souvent utiliser l'expression « les gentils ». Les gentils. Alors ici, on peut voir que... Ismaël est un type de la chair, des gens qui sont dans la chair. Même si Dieu bénit d'une façon particulière Abraham, Isaac et Sarah, Dieu dit quand même ici qu'il va faire de cette nation-là une nation puissante. Alors dans le verset 14 à 21, on va voir qu'il va exécuter la vérité de sa prophétie. Verset 14, « Et Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, et les donna à Agar, les mettant sous son épaule, et lui donna son enfant, et la renvoya, et elle s'en alla en errant dans le désert de Beersheba. » Imaginez la scène. On est à l'époque où tu n'avais pas de bien-être social, tu étais à foutre à la porte, il donne son enfant, il lui donne une outre d'eau. La seule place qu'elle pouvait aller, c'était dans le désert. À part, s'en va dans le désert. Il y a l'image aussi des nations, des gentils, qui marchent dans le désert. Les autres aussi s'en vont dans le désert. Mais Dieu pourvoit quand même l'outre d'eau. On peut la voir comme un symbole de la parole. Mais on voit aussi que Dieu, que Abraham exécute les directives divines de façon très rapide, de façon tendre et douloureuse. Parce que sûrement qu'il n'était pas content quand il a fait ça. Il a mal dehors, il donne une autre dos, puis il donne son fils, puis non, ouais, il fly. Oh! Ça devait brasser dans son cœur un petit peu. Versets 15 et 16, là, nous montrent le drame que cette femme-là s'apprêtait à vivre en s'engageant dans le désert avec une femme et avec une outre d'eau. Là. Et l'eau de l'outre s'épuisa. Normal. Hein? Et Agar laissa tomber son enfant sous un des arbrisseaux. Dans le découragement, elle est mieux aller le mettre plus loin, puis de ne pas le voir mourir, elle n'est pas capable de vivre ça, de voir son enfant mourir sous ses yeux. Et sous un des arbrisseaux, et elle s'en alla et s'assit vis-à-vis, comme à la distance des tireurs d'arc. Un tireur d'arc, quand tu envoies une flèche, ça va pas mal loin. Alors, elle s'est éloignée, elle ne voulait pas voir son enfant mourir. Elle s'assit vis-à-vis, et elle éleva la voix, et pleura. J'imagine, tu es dans le désert, tu n'as plus d'eau, tu es sûr que tu vas crever, toi. T'es sûr que tu vas voir ton enfant crever. Alors, quelque part, c'est normal. Élever la voix, est-ce qu'elle a prié dans son esprit? Ça ne le dit pas. Ça juste dit qu'elle a élevé la voix. Et elle a pleuré. On voit la miséricorde divine, même pour quelqu'un qui n'est pas régénéré, ici. Verset 17. La voix, élever la voix, et la voix souffrir, et la voix pleurer. Qu'est-ce que Dieu fait? On a bien pu dire, écoute... Il lui dit, et Dieu entendit la voix du jeune garçon. L'enfant devait hurler, un bébé là, qui n'a pas d'eau, qui n'a plus d'eau. Et l'ange de Dieu appela des cieux Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix du jeune garçon là où il est. Alors le verset nous enseigne que le Seigneur est miséricordieux envers les nations, soit envers ceux qui ne sont pas sous la bénédiction de l'Alliance. Alors, les nations ne sont pas sous la bénédiction de l'Alliance, mais Dieu ici intervient quand même miséricordieusement envers la femme et envers son fils. Dieu entend et il intervient de façon gracieuse et miraculeuse. Dans le verset 18, ça dit « Lève-toi ». Alors, elle était assise, elle était comme résignée. « Elle va crever ». Je m'éloigne, je ne veux pas voir mon fils mourir. Lève-toi, relève le jeune garçon et prends-le de ta main et j'en ferai une grande nation. On l'a-tu la preuve aujourd'hui que Dieu en a fait une grande nation? Les Arabes tout autour d'Israël, aujourd'hui il y en a un peu partout dans le monde, mais ils sont surtout concentrés dans cette région-là, je dirais. Alors le Seigneur encourage la femme, son enfant, même si l'enfant, lui, n'était pas nécessairement encouragé parce qu'il était trop jeune, mais il reste que le Seigneur encourage et il réunit, parce qu'ils s'étaient comme éloignés l'un de l'autre. Alors, il lui rappelle, Dieu lui-même lui rappelle qu'il accomplira sa promesse. À quelque part, il est vrai que c'est un chapitre qui parle des promesses. Tellement précieux, les promesses. Versets 19 et 20. Il y a une autre leçon importante dans versets 19 et 20. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Souvent, on va dire ça de quelqu'un disons, à qui on a témoigné. On dit, si Dieu ne lui ouvre pas les yeux, on a deux sortes de yeux. On a les yeux physiques, on a les yeux spirituels. Les yeux spirituels, si Dieu ne les ouvre pas lui-même, ça ne marche pas. La personne, dans sa vision physique, elle ne peut pas dire, maintenant, je veux voir spirituellement. C'est Dieu qui fait le job, c'est pas l'être humain. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Là, c'était les yeux physiques. Et elle vit un puits d'eau. Elle était dans un désert, tu vois un puits d'eau. Tout de suite, là, il y a quelque chose qui est surnaturel, quelque chose de grandiose. Et elle alla et remplit d'eau l'outre et fit boire le jeune garçon. Le Seigneur sait très bien qu'un être humain ne peut pas vivre très longtemps dans le désert sans boire d'eau. Alors, dans ces versets-là, on apprend plusieurs caractéristiques de Dieu. Premièrement, sa toute-puissance. Quand on prie pour que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un, on ne parle pas de nos yeux physiques parce que quand quelqu'un n'est pas aveugle, il voit. Il se promène, il voit des têtes, il voit toutes sortes d'horaires. Mais quand Dieu rouvre les yeux spirituels, tu vois quoi? Tu vois ta dépravité, ta corruption, ta condamnation. Tu vois aussi qui est Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même, incarné dans une chair d'homme qui est venu faire sur la terre. C'est quoi ça si ce n'est pas ouvrir les yeux? Quand Dieu nous sauve, il nous régénère, il nous ouvre les yeux spirituels pour qu'on comprenne des idées qui sont exprimées dans les Écritures et même les Écritures disent que c'est lui qui nous donne la foi, c'est lui qui nous donne la repentance. Tout vient de lui. Alors, dans le passage ici, on voit clairement, et Dieu fut avec le verset 20, Dieu fut avec le jeune garçon, et il grandit et habita dans le désert, devint tireur d'arc. Verset 21 est intéressant aussi. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme de la terre d'Égypte. Leçon très importante ici. S'il est vrai qu'on voit le fils comme étant une image, elle avait vécu avec, on pourrait dire, des croyants. Elle aurait dû apprendre certaines choses concernant les croyants. Et voyez-vous à qui elle donne son fils, à qui est sa mère? Alors c'est Agar qui a décidé de donner à son fils une Égyptienne. Et l'Égypte, dans les Écritures, c'est toujours un symbole du péché, du monde. Alors, elle donne à son fils, le symbolisme, c'est comme, elle donne à son fils, c'est comme si quelqu'un qui a vécu beaucoup, beaucoup proche des chrétiens, il aurait dû apprendre des choses, puis en plus, il fait marier ça avec une païenne de la pire espèce, comme on peut dire. Alors, bien entendu, ils deviennent, elle a fait vraiment des mauvais choix. Elle aurait dû avoir plus appris de son séjour et de vivre avec Abraham. Alors, malgré les innombrables bénédictions divines qu'elle a reçues, c'est pas la première, là. Agar continue de manifester son caractère de femme charnelle, puisqu'elle décide de donner une épouse égyptienne à son fils. L'Égypte, on le sait, est une image du monde et de ce qui est opposé à Dieu dans les Saintes Écritures. Alors, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui et on terminera la semaine prochaine, la dernière partie, les versets 22 à 34.